attente et de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté. Cette nuit risque de te hanter. Fatou Mata, elle t'a maté. Les deux t'attentes et de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté. Fatou Mata, elle t'a maté. Les deux t'attentes et de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté. Cette nuit risque de te hanter. Fatou Mata, elle t'a maté. Les deux t'attentes et de la tâter. Fatou Mata, elle t'a maté.
Bonjour, vous êtes sur O2 Radio 91.3 FM. Bienvenue dans notre émission Les Pipelettes Solidaires. Ce soir, en studio, il y a Emma, Noémie.
Salut!
Camille, bien sûr, c'est moi. Ophélie.
Bonsoir.
Fatou.
Hola.
Luna.
Coucou.
Laurine.
Hello.
Et Maëva.
Salut.
Nous allons vous parler de solidarité et de mixité. Nous avons choisi ces deux thèmes parce que nous posons de réelles questions sur la mixité et parce que nous avons participé à des projets de solidarité internationale au collège.
L'année dernière, on a fait un projet de solidarité pour Haïti. Les gens de l'association Aide et Action nous ont proposé de faire une collecte de fournitures scolaires. On a demandé à tous les élèves du collège de participer. On avait mis dans le CDI un grand carton décoré avec des posters d'Aide et Action.
Des matériels, des règles, des stylos, des gommes, etc. On a pesé le carton, il était plein. Il faisait 32 kilos.
C'était mon poids.
Toutes les fournitures ont été envoyées dans une ville d'Haïti pour que les personnes handicapées les envoient par colis à Haïti.
Et on a aussi réalisé des exposés avec le professeur d'histoire et d'éducation civique. Il y avait plusieurs thèmes d'exposés comme les différences entre les écoles en France et en Haïti. On a tout exposé au CDI du collège puis à la médiathèque de ce nom.
Toujours sur le thème d'Haïti, nous sommes allés au Rocher de Palmer pour faire une sieste musicale. Allongés dans des transats, nous avons écouté des musiques traditionnelles de l'île.
Des pompiers sont aussi venus nous parler de ce qui s'est passé en Haïti pendant le séisme. Ils ont pu secourir plusieurs personnes en logeant dans des tentes. Des bénévoles d'Aide et Action sont venus pour nous montrer des images des conséquences du séisme.
Et en cours d'histoire, on a découvert la noix de cajou grâce à un intervenant. Il nous a appris qu'il y avait des substances toxiques dans la coque et comment elles poussaient. On a vu des photos de champs de noix de cajou en Haïti.
Nous sommes allés à la rencontre de l'organisateur du projet Haïti, Monsieur Saint-Marc, pour en apprendre un peu plus.
Oui, bonjour. Monsieur Saint-Marc, je suis professeur de SVT au Collège Jean Jaurès, à ce nom, et je m'occupe à l'intérieur de l'établissement d'animer avec les autres professeurs et les élèves des projets autour de l'éducation au développement et à la solidarité internationale.
Pouvez-vous nous détailler le projet Haïti que vous menez avec Aide et Action ?
Alors, le projet Haïti mené avec Aide et Action, c'est un projet que nous avons eu l'an dernier. Alors, quand on a choisi de travailler sur Haïti l'an dernier avec Aide et Action, c'est parce que Aide et Action, c'est une association que je connais depuis longtemps et dont la mission est d'aider au développement de l'éducation à travers les pays, qu'on dit les pays du Sud, donc les pays où il y a des problèmes à la fois sociologiques, des problèmes de pauvreté et donc des problèmes de scolarisation des jeunes. Et donc ils sont installés depuis une vingtaine d'années à Haïti pour soutenir des projets scolaires. Et donc évidemment, après le séisme qui a eu lieu il y a 3 ans, toutes les écoles ayant été détruites, ou pratiquement toutes les écoles détruites, il a fallu reconstruire ces écoles. Et donc c'était l'occasion d'amener les élèves du collège à mieux connaître la situation de ce pays et à agir à leur niveau pour pouvoir aider des jeunes de leurs âges à pouvoir retourner à l'école.
Et est-ce que ça a un rapport avec vos voyages ?
Alors ça, c'est effectivement un peu le côté, je dirais, de ma deuxième vie. C'est-à-dire qu'en plus d'être professeur, je voyage beaucoup, effectivement. J'essaye de voyager le plus souvent à travers le monde. J'ai jamais eu l'occasion d'aller à Haïti, mais j'ai voyagé dans d'autres pays, effectivement, où les conditions de vie des gens sont difficiles, où les conditions de scolarisation des jeunes sont aussi souvent problématiques, et c'est vrai que ça m'a sensibilisé à, disons, à essayer d'aider les gens à mieux vivre, et donc à l'expliquer aux jeunes avec lesquels je travaille, quoi, de voir qu'il y a possibilité, en connaissant mieux les autres, de pouvoir aussi, par des petites actions, les aider à améliorer leur situation, notamment celle de pouvoir aller à l'école.
Où vont les fonds récoltés ?
Alors, dans le projet Haïti, l'an dernier, les élèves avaient réalisé, parce qu'il y avait plusieurs classes qui travaillaient à ce projet, et notamment plusieurs matières aussi. Et en français, les élèves avaient écrit des contes, et avec la chorale du collège, ils avaient préparé des chants autour de la musique haïtienne. Et donc, ils ont donné un spectacle au Rocher de Palmer, et cette l'entrée qui était payante pour les gens avait permis de dégager de l'argent, et cet argent il a été aux associations avec lesquelles on avait travaillé. Donc en plus d'aider Action, il faut que je le rappelle, il y avait deux autres associations qui avaient travaillé, l'association des Haïtiens de Bordeaux qui soutient donc des projets en Haïti, des projets agricoles, et puis il y avait une association également de pompiers qui s'appelle Pompiers pour le Secours International et le Développement, qui intervient donc dans les pays, dans les situations d'urgence, mais aussi pour aider les populations à améliorer l'accès à l'eau potable, par exemple. Donc cet argent, il a été séparé entre ces associations.
Combien d'enfants ont participé au projet ?
Alors, l'an dernier, c'était un gros projet, puisqu'il y avait, quatre classes qui étaient bien impliquées et d'autres classes qui ont aussi reçu une information un peu plus, ponctuelle. J'ai envie de dire, il y a pratiquement 150 à 200 élèves du collège qui ont été touchés par ce projet. Et puis cette année, sur le projet Mauritanie, il y a aussi quatre classes qui travaillent, donc ça fait pratiquement 100 élèves qui sont directement concernés.
Voulez-vous rajouter quelque chose à cette interview ?
Bah écoutez, je vous remercie en tout cas de m'avoir questionné sur ce sujet, parce que je pense que c'est bien d'abord le travail que vous faites d'animateur radio, et de pouvoir passer des témoignages aux gens donc sur ce qui se passe ici à l'intérieur du collège. Et puis je souhaite longue vie à O2 Radio, et puis plein de bonnes choses dans la réussite des élèves du collège. Et puis j'espère que le fait de travailler comme ça sur l'ouverture sur le monde leur donnera aussi envie d'aller voir plus loin, ailleurs, connaître d'autres cultures, et de pouvoir apporter leur aide le jour où ils auront la possibilité, le cœur pour le faire.
À l'instant, vous écoutiez Monsieur Saint-Marc, professeur de SVT au Collège Jean Jaurès, qui nous parlait du projet Haïti. D'autres actions ont lieu, comme le concert de la chorale, où nous avons lu des contes écrits par les élèves autour d'Haïti. Nous allons en partager deux avec vous.
Le premier conte qu'on va vous lire est « Le drôle de mariage de Tyrose ». D'habitude, les préparatifs d'un mariage, ça se passe plutôt dans la joie et la bonne humeur, non ? Eh bien là, écoutez donc la suite.
Tyrose vient à Port-au-Prince, heureuse avec ses parents. Tout le monde connaît Jean, son père, le gardien du port. Mais un soir que Jean passe près de la forêt sombre, il entend un drôle de bruit. Il approche tout doucement pour voir.
Un jeune homme qui semblait dérangé essaie d'enlever une jeune fille qui se débat. Bien entendu, Jean essaie de s'interposer. Mais malheureusement, il est tué.
Des années plus tard, Tyrose est devenue une charmante jeune femme obsédée par l'envie de venger son père dont le portrait trône sur le buffet de la case. Elle travaille elle aussi au port et doit bientôt épouser Tipierre, son collègue si attentionné mais si étrange.
Le mariage doit se faire sous les cocotiers au bord de la mer dans 2 mois. Tyrose invite son fiancé pour le présenter à sa mère, mais intriguée par la réaction étrange de Tipierre devant le portrait, elle décide de consulter la Mambo, Tichéri, pour connaître la vie des esprits. A-t-elle raison de s'engager dans cette union ? Les esprits sont-ils prêts à lui accorder leur protection ?
Et pourquoi consulter la Mambo ? Tiens.
Les esprits rendent leur avis sous la forme d'un songe une semaine plus tard. Tichéri se rend aussitôt chez Tyrose et lui raconte son rêve. Un homme se tient dans un jardin devant une maison et la supplie d'aider Tyrose.
Il dit qu'elle est en danger, qu'un homme menace sa paix et son bonheur. Mais Tichéri ne connaît pas l'homme de son rêve.
Tyrose hurle « Non, non !» et pousse la mambo dehors. Mais cette dernière entre en transe et a une vision. Un jardin, un homme en sueur qui pose une pelle.
Sans hésiter, elle se rend directement à la police et décrit le lieu de sa vision. Les policiers retrouvent sans peine la maison au jardin et découvrent la tombe de Jean. Ils appellent Tyrose pour l'informer que son fiancé est le propriétaire de la maison.
À l'annonce de cette nouvelle, Tyrose ressent une grande paix l'envahir. C'est comme si toute sa colère avait disparu, même quand les policiers emmènent son fiancé. Quelques mois plus tard, on célèbre son mariage sous les cocotiers avec le fils de la mambo.
Et voilà, tout va bien, qui finit bien. Ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Le deuxième conte qu'on va vous lire est « Explorateur à Haïti ». Vous n'avez jamais eu envie d'aller voir ailleurs ? Je suis sûre que si. Écoutez donc la suite.
À Port-Rapidement vivait Jean, un garçon de 12 ans. Il habitait avec ses parents Édouard et Lady, son petit frère Tijésus, dans une case sur la place du village. Quand Jean n'était pas à l'école ou en train de récurer les cases familiales, il voyageait, enfin dans sa tête bien sûr.
Il rêvait d'être explorateur. Tous les murs de sa chambre étaient pleins de cartes décorées de cercles et de points. Tous les endroits où il rêvait d'aller. Paris, Sydney, Londres, Dakar. À l'école où il retrouvait ses amis, Jacques et Jocelyne, il ne parlait que de voyage.
Son père, Édouard, passait ses journées dans les champs de canne à sucre. Sa mère travaillait à l'épicerie à deux pas d'ici. À la fin des cours, Tijan allait directement la retrouver pour lui donner un coup de main.
Mais aujourd'hui, il faut se dépêcher. C'est l'anniversaire de grand-mère, celle qui est un peu magicienne. Pas le moment d'être en retard. Tous grimpent sur la vieille moto d'Edouard. La table est déjà dressée quand ils arrivent. Tout le monde se régale du cabri au haricot rouge et surtout du blanc mangé au coco et à la mangue.
J'en ai l'eau à la bouche, pas vous ?
À minuit, Tijan, épuisé, s'endort sur le canapé sans même prendre le temps d'enlever son beau t-shirt bleu, celui qu'il garde pour les grandes occasions. Quand il se réveille, le lendemain matin, il est perché en haut d'un cocotier. Il ne comprend pas comment il est arrivé là. En regardant sous lui, il perd l'équilibre et tout naturellement déploie ses ailes.
Il comprend que pendant son sommeil, il s'est métamorphosé en perroquet bleu, ce qui d'ailleurs n'a l'air d'étonner personne. Pas même ses parents et sa grand-mère qui le regardent en souriant. Il voyage maintenant en compagnie d'autres oiseaux, Paris, Sydney, Londres, Dakar.
Allez, on part avec lui ?
D'Haïti au collège Jean Jaurès, celui d'Ibrahima, et nous l'avons interviewé pour en savoir plus.
Bonjour, je m'appelle Ibrahima Bousso, donc je suis assistant d'éducation au collège Jean Jaurès de Senon depuis la rentrée 2007. Voilà.
Quand et pourquoi avez-vous quitté la Mauritanie ?
Oula, j'ai quitté la Mauritanie il y a de cela pas mal d'années, donc j'avais 20 ans. Après avoir eu mon baccalauréat, donc j'ai décidé de venir en France pour poursuivre mes études.
Voilà. Récemment, vous avez présenté un projet par rapport à la scolarisation des enfants d'un village en Mauritanie. Que pouvez-vous nous dire de ce projet ?
Alors, c'est un projet qui parle de la solidarité internationale. Comme vous le savez, dans le collège Jean Jaurès, nous n'avons pas l'occasion de voyager. Les voyages scolaires ne sont pas souvent organisés. Donc, l'idée était donc d'échanger avec des élèves dans notre pays sans voyager, par le biais d'Internet. Donc c'est ce que j'ai mis en place avec le professeur de SVT, M. DJ Samark, qui est un membre actif d'Aide-Action.
Quand va-t-il commencer ?
Alors, le projet devait théoriquement commencer à la rentrée, Mais les soucis techniques ont fait que là, on est à la phase de mise en place. C'est-à-dire qu'on a échangé quelques mails avec les professeurs du collège de Bavabé. Donc il est question, d'ici courant février en tout cas, de que les élèves puissent échanger entre eux. Donc courant février.
Y a-t-il d'autres écoles dans ce village ?
Alors c'est un grand village, mais il y a une école, un collège et un lycée. Donc c'est le collège où seront scolarisés tous les élèves des villages environnants. Donc il y a juste un collège et un lycée dans cet établissement.
Comment les élèves de Jean Jaurès peuvent aider ou participer au projet ?
Alors le projet, je l'ai conçu en trois étapes. Dans un premier temps, donc il est question d'entrer en contact avec les élèves donc du collège de Bavabé. Dans un second temps, les échanges vont se faire entre élèves. Et en fonction, à l'issue de ces échanges, les élèves verront comment ils pourront aider ces élèves du collège de Bavabé. À savoir que aider ne veut pas dire forcément quelque chose de matériel, ça peut être juste un échange culturel, entre guillemets, ou pédagogique.
Différence entre les écoles en France et celles de Mauritanie.
Alors, il y a de très grandes différences, parce que, disons que le niveau de vie n'est pas le même, donc forcément, ça se répercute sur les établissements. À savoir que déjà au niveau des effectifs, là on a des classes par exemple de 25 élèves. Donc au niveau de Bavabé, on trouve des classes de 60 ou 65 élèves. Donc déjà il y a une différence de taille. Et au niveau des enseignants, on n'a pas forcément un enseignant par discipline. Là-bas on peut avoir un prof mais qui va faire français, histoire, géo, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir un prof par matière par exemple. Et après au niveau par exemple de la restauration, il faut savoir qu'il n'y a pas de cantine scolaire. Les élèves vont au collège le matin, à midi, il faut rentrer à la maison pour se restaurer et revenir l'après-midi. Voilà, quelques différences.
Voulez-vous rajouter quelque chose à cette interview ?
Juste, c'est ma dernière année dans ce collège, donc je souhaitais ouvrir l'esprit des élèves du collège Jean Jaurès donc à la solidarité internationale. Il faut savoir qu'échanger avec des gens qui sont en difficulté, c'est quelque chose d'enrichisseur pour vous-même, d'accord. Donc j'ai passé pas mal d'années dans ce collège, je souhaite qu'il y ait cette logique-là d'échange, d'ouverture vers les autres.
Que représente ce pays pour vous?
Comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis venu en France à l'âge de 20 ans, donc je suis né en Mauritanie. Je suis pas né à Bavabé, mais je suis né dans un village pas loin de Bavabé. Et c'est mon pays, c'est le pays où j'ai fait ma scolarité jusqu'au baccalauréat. Régulièrement, j'y vais, j'ai encore de la famille dans ce pays. Donc c'est un pays, la plupart des pays d'Afrique, en développement. Voilà, c'est mon pays, pays de naissance. La France étant mon pays d'adoption, la Mauritanie étant mon pays de naissance. Voilà.
Monsieur Saint-Marc travaille sur ce projet de solidarité en Mauritanie. On l'écoute ?
Cette année, le projet que nous avons avec plusieurs professeurs et plusieurs classes, c'est un projet de connaissance de la Mauritanie, plus particulièrement du sud de la Mauritanie, parce qu'il y a dans l'établissement un assistant d'éducation qui est d'origine peul de Mauritanie, et donc c'était l'occasion aussi de travailler avec lui à une connaissance de son pays sur le bord du Sénégal, du fleuve Sénégal.
Qu'est-ce qui est prévu dans le projet Mauritanie cette année ?
Alors le projet Mauritanie, c'est un projet donc à la fois de sensibilisation des élèves donc à la connaissance de la partie mauritanienne du fleuve Sénégal, et on a pour projet qui est donc un peu avancé parce que les élèves étudient donc la situation géographique, historique, environnementale de cette partie du sud du pays, et on est en échange, en contact avec un collège d'une petite ville située donc sur le fleuve Sénégal. Et donc notre idée, c'est de mettre en relation les élèves du collège Jean Jaurès, ici à ce nom, avec les élèves du collège de Bababé, s'appelle la petite ville, là-bas. Donc à l'aide d'Internet, on prévoit de s'envoyer des informations, nous sur répondant répondant à leurs questions qu'ils pourraient poser sur la vie ici à ce nom. Et en échange de cela, on recevrait des informations sur leur vie à eux au collège de Bababé et dans leur environnement. Donc c'est pas facile parce qu'il y a des problèmes techniques. Internet marche moins bien en Afrique que ça ne marche en France. Donc pour l'instant, on essaie d'établir des contacts. On travaille sur la connaissance du pays de l'autre et on essaye donc d'améliorer les connexions. En tout cas, nous, on est déjà prêts à leur envoyer des documents et des données un peu sur la vie à ce nom et sur les bords de la Garonne.
Et comment les auditeurs peuvent participer ou soutenir ce projet ?
Alors en fin d'année, il y aura très certainement une présentation du travail des élèves. Autrement, sur le site internet du collège, on laisse aussi des informations. Le soutien aux associations. Pour l'instant, cette année, on ne travaille pas avec des associations, mais certainement dans l'avenir, on continuera à avoir des relations avec des associations et sur le site internet, généralement, on laisse les coordonnées de ces associations. Donc, si les auditeurs veulent prendre contact avec ces associations ont toujours besoin d'un peu de sous pour fonctionner ou voilà, des choses comme ça. Mais c'est aussi suivre un peu l'actualité du monde et puis agir, être solidaire quand on a l'occasion de le faire. C'est aussi comme ça qu'on agit. Hein.
Tout de suite, une pause musicale. On écoute Faire des ricochets de Paris Africa.
J'aurais pu être un môme, un bout de chou qui sourit.
Elle se fout d'être mouillée comme de la dernière pluie. Mais ici, il n'y a pas d'eau qu'un silence ordinaire qui ne cesse de peser sur nous comme un enfer.
Moi, c'est que je vous laisse échouer, mais pas avec ma vie.
Et je vous regarde verser des larmes qu'on n'a plus ici.
Moi, ce que je voudrais, c'est danser pour faire tomber la pluie.
Je vous regarde creuser
la ferme et pas des pluies.
Je peux pas.
Un ciel qui vous oublie,
un ciel sans avenir.
Je demande quoi un ruisseau, encore moins une rivière.
Je veux seulement jeter
des bouteilles de...
Pour aller plus loin sur cette thématique, nous avons rencontré une association de solidarité internationale Couleurs du Monde.
Nous avons interviewé Mélanie Burbon et Julien Rousseau, volontaires au service civique à l'association Couleurs du Monde.
Et d'où est venue l'idée de créer Couleurs du Monde ?
Couleurs du Monde, donc ça a été créé par un groupe de jeunes dans les années 90. Donc un groupe de jeunes qui voulaient partir faire un projet à l'étranger. Donc ils sont partis, je crois, un mois ou deux mois au Sénégal et ils sont revenus avec cette volonté de créer une association pour aider d'autres jeunes voulant réaliser ce genre de projet.
Et depuis quand l'association a-t-elle été mise en place ?
Précisément depuis 1998. Donc ça va faire 15 ans cette année.
D'accord. L'association agit-elle partout dans le monde ?
On peut pas trop dire que l'association agit dans le monde dans le sens où on accompagne plutôt des jeunes ou des porteurs de projets. Et on va dire qu'on a des partenariats solides avec plusieurs pays, notamment du Maghreb, et aussi au Sénégal et au Togo. Donc on a des partenariats dans ces pays-là et on développe des projets avec ces partenaires. Et il arrive que effectivement des jeunes via notre association soient amenés à aller sur les projets des partenaires.
L'association comporte des projets jeunes. En quoi consiste-t-il ?
Les projets de jeunes, en fait, ce sont en général des groupes ou des individuels qui souhaitent s'investir dans une action de solidarité internationale. Et donc, on les accompagne dans leurs projets. En général, ça peut être des projets comme partir rénover une partie d'école ou partir sur un voyage solidaire, dans le sens où on peut aller rencontrer des associations, mener un peu le tourisme avec avec l'action solidaire. C'est vraiment des projets qui sont divers parce que c'est pas vraiment nous qui les proposons, c'est les jeunes qui en sont à l'initiative. Donc c'est des projets de tout type et qui peuvent être avec des étudiants, des collégiens, mais aussi avec des personnes qui sont pas forcément dans le cercle étudiant, etc. Il y a vraiment beaucoup de diversité dans les projets.
En moyenne, combien de jeunes participent à votre projet par an ?
Alors là, on a une action qui est le projet Maroc, donc un projet qu'on va organiser avec des jeunes, nous, directement. Donc on tape sur une dizaine de jeunes à peu près en participant. Il reste encore à affiner le nombre de jeunes parce que les inscriptions sont encore ouvertes et il faut recruter. Et après, on propose un programme de formation et là, on a une dizaine de groupes à peu près en moyenne qui se présentent pour venir se former aux problématiques locales, aux actions avec les partenaires. Voilà.
Depuis 7 ans, vous organisez une journée Jeunesse et Solidarité Internationale. Pouvez-vous nous en dire plus ?
Donc la journée Jeunesse et Solidarité Internationale, c'est une journée en fait qui permet tout d'abord à des jeunes de restituer leur projet. Donc ce qu'on entend par restituer, c'est-à-dire parler de leur projet au grand public. Donc on leur permet d'avoir un espace pendant la journée où ils peuvent exposer des photos par exemple, un carnet de bord, une vidéo, et ils tiennent leur stand pour que les visiteurs de la journée puissent avoir des informations, mais aussi des jeunes qui veulent s'engager dans ce type de projet et qui veulent avoir un retour d'expérience. C'est un espace un peu forum qui est ouvert toute la journée en continu. Et à côté de ça, on organise des conférences durant la journée sur différents thèmes qui portent sur la jeunesse et la solidarité internationale, donc ici en France ou à l'étranger. Et c'est aussi un moyen pour nous de faire venir nos partenaires du Sud pour qu'ils puissent parler de eux, comment ça se passe dans leur pays, et pour aussi avoir un retour des expériences d'avoir accueilli ce genre de projet de jeunes, etc. Et ça permet également à des acteurs locaux en Aquitaine ou en Gironde de se rencontrer aussi et pourquoi pas de faire naître de futurs projets. C'est vraiment un espace de rencontre et d'échange, cette journée autour de la jeunesse et de la solidarité internationale.
Et en quoi consiste le projet d'accompagnement des jeunes ?
Donc souvent quand on monte un projet, c'est pas facile. Et il y a des zones un peu floues autour du financement, de comment aborder son partenaire, le choc des cultures. Quand on arrive dans un pays, c'est pas toujours facile. Et du coup, l'association propose à des jeunes, à des projets, d'être accompagnés, où on va les aider à se poser des questions sur les problématiques de l'interculturalité, sur les financements, sur l'action avec le partenaire, sur les inégalités dans le monde. Donc on accompagne les groupes qui le veulent.
Donc ça peut être aussi un accompagnement du coup collectif, comme vient de le décrire Julien. Donc dans le sens où on a un programme de formation avec une journée après par mois avec des thèmes précis. Et aussi il y a à côté de ça un accompagnement individuel, c'est-à-dire que les groupes peuvent venir nous voir à l'association, prendre un rendez-vous et on parle plus en approfondissant leur projet en fait. Parce que dans les programmes de formation, on a en général 5-6 groupes en même temps, c'est difficile de faire du cas par cas. Donc l'accompagnement individuel à côté permet vraiment d'approfondir et de personnaliser l'accompagnement.
Donc vous faites plus une aide financière au groupe de jeunes ?
Non, surtout accompagner justement, les soutenir dans les démarches, comme le disait Julien, on va les aider à trouver des financements. C'est sûr, on va aussi pouvoir, via notre association, les soutenir dans certains dossiers. C'est ce qu'on appelle être parrain. Mais on leur donne pas, à proprement parler, d'argent, en fait. On les accompagne à trouver des financements, mais c'est pas nous qui leur donnons. Et du coup, à côté de ce côté d'aide à la recherche de financement, il y a toute l'aide, comment je monte mon projet, quelle étape je dois faire en premier, comment je communique avec mon partenaire, etc. Toutes des tâches qui vont être un petit peu difficile à cerner au début, et on va essayer de cadrer tout ça et puis d'accompagner le groupe.
En quoi consiste concrètement le projet Maroc ?
Donc le projet Maroc est un projet que porte l'association. Donc c'est le seul projet qui est à l'initiative de l'association et qui se fait en partenariat avec le Conseil général de Gironde, les parcs des langues de Gascogne. Donc on propose tous les ans un chantier à des jeunes de 16 à 25 ans dans le but de partir 3 semaines en général au Maroc. Donc le projet là, c'était sur un circuit écotouristique. Donc c'est lié le tourisme et le développement durable. Donc du coup, les jeunes se sont investis sur tout le projet, c'est-à-dire à partir du mois de janvier, ils ont commencé à se réunir. Donc tout d'abord à se questionner sur leurs motivations diverses, à s'organiser pour savoir qui allait faire quoi durant tout le projet, comment ils allaient financer leur projet. Donc du coup, ça veut dire que s'ils commencent en janvier, il y a à peu près 6 mois de préparation. Et les 6 mois de préparation, ça ne veut pas dire on va consacrer 20 heures par semaine, ça va être 2-3 heures par semaine. Selon l'organisation, il y a du travail qui peut être fait chez soi, et il y a des réunions de temps en temps. Mais c'est une préparation sur le long terme, mais qui ne prend pas non plus énormément de temps personnel. Donc ensuite, une fois tout ce travail de préparation, donc communication avec le partenaire, qu'est-ce qu'on va faire pendant notre séjour, qui sont les jeunes qu'on va rencontrer, parce que là-bas, pendant 3 semaines, il y a aussi un groupe de jeunes marocains. Donc pendant 3 semaines, il y a une vraie expérience interculturelle qui se déroule. Donc l'année dernière, par exemple, les jeunes français sont allés au Maroc en bus. Donc ils ont traversé le reste de la France, l'Espagne, et sont arrivés au Maroc en bus. Et donc du coup, ont rencontré des jeunes marocains. Ils sont restés 3 semaines pour rénover un centre, un gîte forestier. Et pendant ces journées, donc il y avait certaines matinées ou journées destinées à la rénovation de ce gîte. Et puis il y avait d'autres moments pendant 3 ou 4 jours où ils partaient visiter une ville, faire une randonnée, découvrir un peu le patrimoine culturel. Donc ça, c'est eux qui l'ont décidé dans la préparation du projet. Donc c'est pour ça qu'on les investit dès le mois de janvier pour qu'ils aient un maximum d'autonomie dans le projet. Donc voilà à peu près ce qu'on peut donner comme exemple de projet.
Combien de salariés, stagiaires et bénévoles travaillent pour Couleur du Monde ?
Alors, à Couleur du Monde, donc on a 2 salariés, Céline et Jean-Marc. Et donc, on est 8 volontaires en service civique. En plus de ça, on accueille des stagiaires. Actuellement, on en a une. Et prochainement, on en aura un autre. Et après, en bénévole, on tourne autour d'une trentaine de membres actifs au sein de l'association.
On va changer de thématique juste après la pause musicale. Restez avec nous tout de suite. We are the world.
There comes a time when we heed a certain call, and the world must come together as one.
There are people dying, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all.
We can go on pretending day by day that someone, somewhere will soon make a change.
We are all a part of God's great big family, and the truth, you know, love is all we need.
We are the world, we are the children, we are ones who make a brighter day, so let's start giving.
On se retrouve pour notre émission avec les pipelettes solidaires. Pour la deuxième partie de cette émission, on va parler de la mixité.
On a remarqué que les filles et les garçons n'étaient pas mélangés, suite à la constitution de notre groupe radio. Comme vous l'avez remarqué, nous sommes 8 filles.
Coucou!
Nous avons posé quelques questions à nos camarades du collège. Écoutez leurs réponses.
Trouvez-vous que les activités sportives sont mixtes ?
Oui, ça dépend lesquelles.
Oui.
Il y a pour les filles et pour les garçons ?
J'y pense que oui.
Non, pas trop.
Non, je trouve pas qu'ils sont vraiment, vraiment très très mixtes parce que il y a plus d'activités pour garçons.
Un peu. Est-ce que vous restez plus souvent avec des personnes qui ont le même sexe que vous ?
À mon avis, plus, oui.
Oui.
Pas du tout.
Que pensez-vous des écoles non mixtes ?
Je pense que c'est mieux de faire mixte, de mélanger les garçons et les filles, que d'avoir que les garçons d'un côté et que les filles de l'autre. C'est différent, on va dire.
Que c'est raciste.
Non mixte ? Je trouve que ça, c'est pas bien parce qu'ils en profitent pas.
Bah, je trouve ça nul.
Ben, je sais pas, c'est pas vraiment bien parce que faut rester avec, voilà, on reste avec qui on veut.
Comment êtes-vous mélangé dans les classes et qu'en pensez-vous ?
Dans les classes, il y a, je crois, plus de garçons. Et, mais c'est, sinon c'est bien réparti.
Qu'on est mélangé par, plusieurs, sexes et que c'est bien.
Moi, je trouve que, comme on est mélangé, en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup plus de garçons que de filles. On est 6 filles et presque 20 garçons, voilà.
Trop de garçons.
Ben, on est mixte et c'est bien.
Moi, dans ma classe, il y a plus de filles que de garçons. Et je trouve ça mieux parce que je suis une fille.
Mais il y a des filles, des garçons, ça va. C'est bien mélangé, quoi.
Que pensez-vous des filles qui sont des garçons manqués et des garçons qui sont un peu efféminés ?
On va pas dire normal, mais c'est... Bon, voilà, c'est... On peut pas le décider.
Ben, qui sont comme ça ? Ils ont pas le choix.
Eh ben, c'est eux qui sont choisis.
Bah, c'est elles qui voient, hein, c'est pas nous.
Ben, qui sont bizarres.
Je trouve que c'est leur vie et donc ça ne nous regarde pas.
Enfin, après, ça me regarde pas, mais c'est leur vie, hein.
Nous avons voulu interroger une spécialiste pour mieux comprendre cette histoire de mixité dans les loisirs.
Nous avons fait une interview à Edith Marouijoul. Elle prépare sa thèse de doctorat sur ces questions. On l'écoute.
Bonjour, je vais vous demander de vous présenter, s'il vous plaît.
Bonjour, je m'appelle Edith Marouijouls. Je suis doctorante en géographie sociale. Ça veut dire que j'écris une thèse sur le sujet de la mixité, donc d'être ensemble, filles-garçons, sur le loisir des jeunes.
Alors, après toutes vos recherches, qu'avez-vous découvert à propos des loisirs ?
Alors donc j'ai cherché à savoir si les jeunes filles et les jeunes garçons pratiquaient des loisirs ensemble et j'ai étudié donc les domaines sportifs, les domaines artistiques et culturels, en particulier les écoles de musique et les écoles de danse, et puis ce qu'on appelle aussi les maisons des jeunes, hein, qui sont après le centre de loisirs, les endroits où les jeunes ados et pré-ados se retrouvent. Et ben, les conclusions de mon travail, c'est qu'il y a peu d'endroits en fait où les filles et les garçons se retrouvent ensemble. Voilà, par exemple dans le domaine sportif, les filles et les garçons pratiquent peu d'activités sportives ensemble. Il y a par exemple beaucoup de garçons au football, beaucoup de garçons au rugby. Les filles vont plutôt faire de la gym sportive ou du hurling bâton. Quand ils sont dans le même sport, il arrive qu'il y ait plutôt des équipes masculines et des équipes féminines que plutôt un jeu où ils jouent collectivement ensemble. Donc c'est le cas aussi dans les loisirs type la musique ou la danse, hein, donc il y a très peu de garçons qui sont en école de danse. Par rapport à la musique, même s'il y a des filles et des garçons qui font des instruments de musique, ils sont très peu sur le même instrument. Par exemple, les garçons vont faire de la batterie, du saxophone, et les filles vont plutôt faire du piano, du violon, voilà. Et ensuite, quant aux maisons des jeunes, alors là, il y a énormément de garçons qui fréquentent les maisons des jeunes, très peu de filles. Et lorsqu'elles y vont, c'est pour faire des projets spécifiques. Mais elles y sont pas, par exemple, le mercredi ou pendant les vacances scolaires. Voilà.
Ok. Et pourquoi les filles et les garçons sont-ils autant séparés, à votre avis ?
Alors ça, c'est une question difficile. Hein. Ça fait partie de ma recherche. Donc, les filles et les garçons sont éduqués ensemble à l'école. Hein. Ils sont ensemble au collège. Mais lorsqu'ils doivent faire un choix de loisirs en dehors du collège, eh bien ils vont, ce qu'on appelle ce, en général, hein, la majorité d'entre eux, pas tous, hein, bien sûr, vont se former à ce qu'on appelle une norme de genre, c'est-à-dire ce qui définit qu'est-ce que c'est être une fille et qu'est-ce que c'est être un garçon. Et à partir de là, ils vont avoir du mal à choisir librement, en fait, ou comme ils en auraient peut-être vraiment envie, donc par exemple pour une fille de faire du foot, parce que normalement, enfin dans les discours qu'on entend, une fille ça ne fait pas de football, voilà, un garçon ça va pas dans une école de danse, ça fait plutôt une activité, voilà, de la batterie ou de la musique amplifiée, et quand aux maisons des jeunes, alors là c'est un peu plus compliqué, c'est dû aussi à ce qu'on appelle les politiques qui ont été mises en place, et dans ces maisons, en fait, on a pensé aussi à accueillir les jeunes garçons qui étaient plus au collège ou qui décrochaient au niveau scolaire. On n'a peut-être pas réfléchi à comment accueillir les filles aussi. Voilà.
Les filles et les garçons sont-ils plus séparés dans les activités sportives ou culturelles, et pourquoi ?
Alors, ils ne sont pas plus. Ce qu'il y a, par contre, c'est qu'il y a moins de choix d'activités sportives pour les filles. C'est-à-dire que les clubs, en fait, vont plutôt organiser des sports en fonction d'équipes de garçons ou en fonction d'une pratique masculine. Par exemple, une fille qui aurait pratiqué du football lorsqu'elle est à l'école primaire, par exemple, et qui aurait joué dans une équipe mixte où il y a des filles et des garçons, lorsqu'elle va vouloir pratiquer du football à partir de 10-11 ans, ben soit il n'y aura pas d'équipe féminine parce qu'il n'y aura pas assez de filles ou parce que le club aura plutôt investi une équipe de garçons, et donc elle ne va pas trouver la possibilité de poursuivre sa pratique. Ou alors il va falloir qu'elle s'organise à créer en fait une équipe avec ses amis, etc., et demander au club de l'accueillir. On met plutôt en avant les sports de garçons, et puis parce que les garçons vont aussi beaucoup sur l'activité sportive. Il y a certaines filles qui, toujours pour les mêmes raisons, vont peut-être moins sur les activités sportives. Sur les activités artistiques et culturelles, alors là, il y a moins de jeunes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui font du sport que de jeunes qui font, par exemple, de la musique. Voilà, hein, les écoles de musique, c'est des effectifs qui sont plus petits que des clubs de sport. Donc là, effectivement, il y a autant de filles que de garçons qui font de la musique, mais lorsqu'ils pratiquent un instrument, ça ne sera pas le même. Ça vient de ce qu'on appelle la culture, en fait, du fait qu'on ait appris aussi à se diriger plutôt quand on est une fille sur du piano, du violon, et quand on est un garçon sur de la batterie et du saxophone, par exemple, ou de la guitare électrique, vous voyez, des choses comme ça, quoi. Voilà. Donc il y a des différences dans les deux, en fait, sauf que au niveau musical, au niveau de la pratique de la musique, il y aurait plus, il y a déjà autant de fréquentations filles que garçons. Dans le sport, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a deux fois plus de garçons que de filles qui font du sport en club. Et alors, par contre, aussi, ce qui est complètement, on va dire, stéréotypé, où là, on trouve très peu de mélange, ce sont les écoles de danse. Hein, puisque moi, sur les écoles de danse que j'ai étudiées, il n'y a que des filles. Donc, la danse n'est pas un milieu encore, alors que les garçons pourraient s'y inscrire. Hein, voilà, ça, c'est un problème aussi de société. Pourquoi les garçons ne vont pas aux écoles de danse? Voilà.
Ok. Pourquoi y a-t-il tant de stéréotypes comme en gymnastique, par exemple, qui serait un sport de filles? Nous entendons par là pourquoi les gens pensent qu'il y a moins de garçons que de filles dans la gymnastique, alors que ce n'est pas forcément vrai.
Alors, c'est pas tellement que les gens pensent, c'est que moi, dans mon travail que j'ai fait, en fait, de chercheuse, j'ai compté les gens. C'est-à-dire, j'ai pris une année, vous voyez, par exemple, l'année 2009, et j'ai regardé tous les gens qui étaient, toutes les filles et tous les garçons qui se sont inscrits dans les clubs. Hein, donc, en fait, les chiffres que j'ai, moi, ce sont des chiffres où on a compté. C'est-à-dire, on pense pas s'il y en a moins ou plus, c'est qu'on les a comptés. Donc, c'est pas une pensée, en fait. C'est vraiment un fait observable et concret. Donc, pourquoi est-ce que la gymnastique, c'est plutôt un sport de filles? Alors ça, c'est une question, probablement parce que l'image de la grâce, de la souplesse, même si c'est quelque chose de très sportif, hein, la gymnastique, voilà, était plus valorisée du côté des filles, on pense que les filles sont gracieuses, sont souples, sont plus aptes à faire de la gymnastique, et les garçons peut-être plus physiques, donc plus aptes à faire du rugby et à faire du football. Sauf que ce sont des idées qui sont comme des préjugés, si vous voulez, hein, comme des, c'est-à-dire qu'on préjuge, on pense que c'est comme ça que les choses s'organisent naturellement. Sauf que on sait très bien qu'il y a des garçons qui sont très souples, des filles qui sont très physiques. Il y a des garçons petits, il y a des filles grandes, il y a des garçons surpoids. Enfin, vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire que on uniformise les garçons et les filles. On dit les garçons c'est comme ça et les filles c'est comme ça. Alors qu'en fait, chaque être humain est différent. Il y a des capacités différentes. Et c'est souvent la performance, c'est-à-dire être compétent dans un domaine, c'est souvent ce qu'on nous apprend, c'est-à-dire la technique. Hein, même au football, arriver à quelque chose, c'est avoir une technique. Sauf que cette technique, on l'apprend plus aux petits garçons qu'aux petites filles. Donc, finalement, effectivement, on retrouve peut-être moins de filles compétentes au football. Mais ça vient de l'éducation qu'on reçoit dès la toute petite enfance, en fait. Donc pour la gym c'est pareil, il n'y a pas de, c'est pour moi en fait il n'existe pas de sport de filles et de sport de garçons. Ça existe dans les faits, c'est-à-dire que dans les faits il y a des endroits où il y a des filles, où il y a beaucoup plus de filles et des endroits où il y a beaucoup plus de garçons, mais ça n'est pas dû à ce qu'on est nous en fait, voilà.
D'accord. Alors avez-vous constaté des différences d'une ville à l'autre par rapport à un même loisir?
Alors moi j'ai étudié des villes qui sont à peu près pareilles au niveau du nombre d'habitants, au niveau des installations sportives, de l'offre aussi de loisirs. Par contre, ces villes, elles sont différentes en fonction de ce qu'on appelle la population. C'est-à-dire que j'ai étudié deux villes où les personnes qui y vivent sont plutôt des personnes qui sont qu'on appelle issus des milieux populaires, c'est-à-dire qui ont peu de revenus, qui ont des difficultés d'emploi, qui ont des difficultés de vie, hein, des difficultés sociales, et une ville où là les personnes, les familles, les parents travaillent, enfin ont des revenus corrects. Donc ça se voit en fait avec des indices, hein, qu'on a dans chaque ville, par exemple combien on paye d'impôts, combien on gagne en salaire, etc. Donc ça, j'ai donc étudié ces trois villes, donc deux qui sont des villes qu'on va dire populaires, et une qu'on appellerait, pour dire un raccourci, bourgeoise, par exemple, hein, pour donner une image. Et donc sur ces trois villes, en fait, effectivement, on va retrouver la même séparation entre les filles et les garçons dans le loisir. Donc en fait, c'est pas dû à un problème, par exemple, de revenus pour payer le loisir. En tout cas, c'est pas dû qu'à ça. C'est dû aussi au fait que, de la même manière, tous les enfants de France sont éduqués majoritairement à être une fille et être un garçon, c'est-à-dire à faire des choix en fonction de leur sexe biologique et non pas en fonction de ce que eux peut-être aimeraient faire. Voilà.
À l'instant, vous avez écouté Edith Marouet-Joule qui travaille sur les questions de mixité.
Notre émission est à présent terminée.
On souhaite une joyeuse Saint-Valentin à tous les amoureux.
Et aux célibataires aussi.
Nous remercions tous ceux qui ont permis de réaliser ces interviews.
Merci à Madame Marquet pour son merveilleux gâteau au chocolat.
Miam. Je remercie aussi Monsieur Blanc qui m'a demandé de lui faire une spéciale dédicace. Et j'en fais aussi une à moi, bien sûr.
Je fais une dédicace à Madame Marquet qui nous a permis de réaliser ce projet extraordinairement prodigieux.
Je fais aussi une dédicace à ma famille et au Valentin que je n'ai pas.
Lauriane, qu'on perd ou qu'on gagne, tu seras toujours dans notre cœur.
Et je dédicace aussi ma famille.
Moi aussi.
Une dédicace à ma famille, à mes parents, à ma sœur et à Léa.
Pas moi.
Je dédicace à ma famille et à ma petite sœur.
Et voilà, c'est fini.
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 Pas tout matin, t'as maté. Et quand t'attends, t'es de la tâter. Pas tout matin, t'as maté. Cette nuit risque de te hanter. Pas tout matin, t'as maté. Et quand t'attends, t'es de la tâter. Pas tout matin, t'as maté. Pas tout matin, t'as maté. Et quand t'attends, t'es de la tâter. Pas tout matin.